France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie ce soir de sœur Véronique Margron, la présidente de la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France, une des deux structures qui ont commandé le fameux rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église. Véronique Margron nous dira comment elle l'a reçu, sachant qu'elle fait partie de ceux qui avaient alerté sur ces crimes depuis des années. De là à imaginer l'ampleur du désastre, c'est sans doute une autre histoire. L'Église pourra-t-elle s'en remettre? Et si oui, à quel prix? On posera la question à celle qui fut doyenne de la faculté de théologie d'Angers, mais aussi éducatrice pour la protection judiciaire de la jeunesse. Car dans cette affaire, il y a des points à éclaircir sur la question notamment de la hiérarchie des normes. On l'a vu ces derniers jours avec cette polémique sur le secret de la confession. Le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, est d'ailleurs invité à venir s'expliquer place Beauvau la semaine prochaine pour avoir déclaré la chose suivante.
Le secret de la confession restera parce que ça ouvre un espace de parole libre. Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République.
Mais les lois de la République posent des interdits et pas uniquement des principes moraux, dit Jean-Marc Sauvé.
Dans la République française, on applique la loi de la République. Et on ne peut pas se contenter de dire « ah ben c'était un péché ».
Sur tous ces points, l'éclairage de Véronique Margron nous sera précieux. On évoquera également avec elle l'actualité de la semaine. À 19h20, le téléphone sonne consacré ce soir aux déserts médicaux. L'association des maires ruraux de France lance un appel avec des citoyens et des professionnels du soin pour qu'enfin on trouve des solutions à ce qui est un vrai problème de santé publique. Le standard atteint d'ailleurs vos appels au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, à Irène Menahem pour la préparation de cette émission, à Juliette Gou pour la réalisation et à Clémentine Ducasse pour la page web.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Véronique Margron.
Bonsoir à vous.
Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Vous êtes sœur dominicaine, prieure provinciale des dominicaines de la Présentation, donc à la tête de votre congrégation depuis 2013. Vous êtes aussi depuis 2016 présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. À ce titre, vous êtes destinataire du rapport publié cette semaine par Jean-Marc Sauvé, au même titre que la Conférence des évêques de France. Véronique Margron, on sait que vous aviez alerté sur ce sujet, notamment dans un essai que vous aviez publié en 2019 chez Albin Michel, Un moment de vérité. Diriez-vous que le rapport Sauvé, c'est encore pire que ce que vous pouviez redouter?
Bien sûr, c'est encore pire. C'est encore pire parce que cela montre deux désastres. Le désastre de ce peuple de vie brisée à l'intérieur de l'Église. Et si nous imaginions, si je connais nombre de vies brisées, de là, imaginer un peuple brisé et plus de 200 000 personnes, 300 000, on ne sait plus. Et c'est à chaque fois une vie personnelle, c'est à chaque fois une singularité, une histoire, des proches. Donc c'est autant de visages. Donc c'est un peuple fracassé à l'intérieur même de notre Église, par des membres de l'Église, par des complicités ou des lâchetés ou des incompétences. Et le deuxième désastre, c'est justement que nos institutions dans l'Église catholique, que nous pouvions penser si solides, ont failli à protéger les enfants, à les entendre, à protéger aussi les adultes rendus vulnérables, et puis à signaler les auteurs de ces forfaits, à les poursuivre.
On comprend que ce ne sont pas quelques brebis galeuses, c'est un problème global, c'est systémique.
Oui, bien sûr, c'est bien cela que nous pouvions pressentir déjà, que c'était un problème systémique. Mais je pense que nul, y compris la commission Sauvé avant son enquête, ne pouvait imaginer que nous étions, encore une fois, dans cette ampleur. Mais n'y aurait-il qu'une victime, ce serait une victime de trop ? De toute manière, mais là l'ampleur montre en effet ce caractère systémique, presque endémique, de ces violences, du silence qui les a entourées.
Et c'est surtout tellement aux antipodes des valeurs de l'Église, c'est ça qui surprend.
C'est-à-dire que c'est une trahison jusqu'à l'intime de chaque chrétien, de chaque humain, je pense même. Enfin, c'est une trahison, c'est-à-dire que je confesse avec bien d'autres parmi les chrétiens, un Dieu fait proche, un Dieu qui prend soin des plus vulnérables, et c'est dans cette maison-là, qui n'a pas d'autre but hein, quand même, que de témoigner du Christ, c'est dans cette maison-là que se sont produits tous ces crimes. C'est à vrai dire, vous savez, c'est intolérable, et je ne sais pas comment intérieurement il est possible de s'en remettre.
Alors ce qui est incroyable aussi, c'est ce que dit Jean-Marc Sauvé de la souffrance de ceux qui ont subi tous ces agissements, même 30 ans, 40 ans, 50 ans après, ce qu'ils en disent, sur le peu d'empathie qu'il a pu y avoir au sein de l'Église jusqu'à il y a une vingtaine d'années. On écoute Jean-Marc Sauvé.
Depuis 70 ans, un point majeur, c'est jusqu'au début des années 2000, une indifférence profonde, une indifférence totale et même cruelle à l'égard des victimes. Les victimes ne sont pas crues, ne sont pas entendues. On considère, quand elles sont entendues, qu'elles ont peu ou prou contribué à ce qui leur est arrivé. Et très exceptionnellement, des indemnisations sont envisagées, mais quand elles sont envisagées, c'est en contrepartie du serment de ne jamais révéler ce qui s'est produit.
Véronique Margron, l'Église a eu tendance à minimiser, clairement.
Oui, c'est même pire que cela. Quand on écoute Jean-Marc Sauvé, comme à l'instant, qu'on lit le rapport, qu'on écoute les victimes, non seulement elle a minimisé, mais vous vous rendez compte, enfin, ce chantage, c'est glaçant. C'est de se dire que, en plus, quand elle a pris en compte quelque chose, c'était contre une contrepartie complètement terrible. Et moi, je l'ai entendu de victime, hein, que la victime ou ses parents se taisent, que sinon, comme en plus dans un certain nombre de situations, l'Église était une sorte de soutien financier pour permettre à un enfant d'aller dans une école catholique, dans un petit séminaire, donc avec des menaces. Donc voilà, on ne sait plus comment nommer les choses, quoi. J'ai toujours beaucoup de mal à me dire qu'en fin de compte, c'est bien dans l'Église que ça s'est passé, parce que il y a des moments où vous n'arrivez même plus à vous dire cela.
Vous évoquez dans votre livre la pédocriminalité, Véronique Margron, vous dites que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, parce que le droit canon déjà évoquait la question, vous l'écrivez, et qu'effectivement, c'était prévu que ça se règle en catimini. C'était prévu.
Alors oui, mais c'est-à-dire que, vous savez, c'est très compliqué, hein, l'histoire de l'Église est longue, c'est-à-dire que à la fois, en fin de compte, quand on regarde les années 50, il y a eu un certain nombre d'affaires où, au contraire, l'Église a plutôt été ferme. Je n'ose vous dire juste, parce que franchement, mais en tout cas ferme, avec des peines à l'intérieur de l'Église, relativement lourde. Mais cela se réglait de toute manière entre soi, et dans tous les cas, la victime n'existait pas. C'est ça qui est complètement dingue pour nous aujourd'hui, c'est que, y compris quand on renvoyait des prêtres de l'état clérical ou qu'on les empêchait de célébrer, par exemple, la victime n'existait pas.
Puis il y a quelque chose aussi de frappant, on se demande si l'Église ne confond pas parfois les registres quand elle parle de péché plutôt que de crime. On écoute là encore à ce sujet Jean-Marc Sauvé, le président de la Commission.
Au sein de l'Église, on a parfois de la difficulté à conjuguer l'ordre temporel et l'ordre spirituel. C'est un peu la cité de Dieu et la cité des hommes. Bon, on est croyant, on est pratiquant dans la République française. Eh bien, dans la République française, on applique la loi de la République. Et on peut pas se contenter de dire « Ah ben c'était un péché ». Un crime est un crime, un délit est un délit.
Véronique Margron, sur cette question.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu des confusions de langage, quoi. Enfin, prendre un langage spirituel, religieux, celui du péché, qui est toujours dans le langage théologique, aussi une atteinte à Dieu, alors qu'on est en train de parler de crime. Je pense que ceci a participé à une sorte d'effacement des consciences, vous voyez, de baisse totale de la vigilance, parce qu'en plus, les catégories de péché dans la tradition catholique est très grande et regroupe des choses vraiment qui sont extrêmement disparates, c'est rien
vous,
de dire.
Vous le dites, hein, il y a la contraception, les relations hors mariage, les relations homosexuelles, donc tout est mis sur le même plan.
Exactement. Enfin, alors, pas tout à fait, mais tout paraît mis sur le même plan. Alors que, évidemment, quand on parle de crime, on n'est pas du tout en train de parler la même chose. Enfin, on est en train de parler d'atteintes qui vont en plus atteindre toute la vie, si souvent, de la personne qui a subi ces violences. Je pense que ça a participé à ne pas prendre en charge à sa hauteur ni les personnes victimes, ni de prendre en compte la gravité extrême de ces faits. Et comme le dit Jean-Marc Sauvé, par-dessus le marché, de tout simplement comprendre que nous sommes dans un pays, nous sommes dans une république, en plus nous avons la chance d'être dans un état de droit, et que donc c'est à l'état de droit qu'il convient ici d'agir.
Alors justement, à propos d'état de droit, il y a cette polémique depuis deux jours sur la question du secret de la confession. Le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, s'est exprimé mercredi sur l'antenne de France Info, micro de Marc Fauvel. Il a semblé placer le secret de la confession au-dessus des lois de la République. On l'écoute.
Le secret de la confession restera parce que ça ouvre un espace de parole libre.
Le secret de la confession aujourd'hui est plus fort que les lois de la République.
Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera
Elle est plus forte que les lois de la République.
Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Parce qu'il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Véronique Maragon ? On précise qu'il y a une grosse polémique et que le ministre de l'Intérieur a demandé à ce qu'il vienne place Beauvau mardi prochain.
Vous savez, je pense que, enfin, devant l'ampleur de ce qui nous arrive, devant ce désastre, l'heure est de se dire que ce qui importe avant toute chose, c'est de, par tous les moyens, enfin, de protéger les enfants, par tous les moyens, de faire en sorte que toute connaissance, toute suspicion réelle de danger d'un enfant doit pouvoir être impérativement signalé aux autorités compétentes parce que l'Église n'a pas compétence pour protéger les enfants. De ce point de vue-là, ça c'est rien de le dire, même aujourd'hui. Et donc, moi je ne sais pas canoniquement...
Mais est-ce qu'il y a vraiment un conflit entre les lois de la République et ce que dit le droit canonique ?
En tout cas, qu'il y ait peut-être une tension, c'est fort possible. Enfin, nous vivons dans un état de droit qui s'impose à tout citoyen. Donc après, il va falloir travailler. Je pense que les juristes ecclésiastiques de droit canonique peuvent travailler pour voir comment ça peut être fait. Mais ce qui est par-dessus tout, c'est la protection des mineurs ou des personnes adultes rendues vulnérables sous une relation d'emprise. C'est ça qui est avant toute chose.
Et de ce point de vue-là, les choses ont évolué depuis les années 2000. Normalement, j'ai cru comprendre que maintenant, Rome obligeait les responsables religieux à signaler, quand il y avait des plaintes, de signaler les cas de...
Absolument.
Aussitôt, d'agression.
Absolument. D'abord de les signaler dans un texte législatif d'il y a 2 ans de la part du pape François, de les signaler aux autorités ecclésiastiques. Et récemment, le pape François vient d'ajouter de les signaler aux autorités judiciaires ou compétentes, en particulier pour nous, encore une fois, qui avons cette chance de vivre dans un état de droit, dans les états totalitaires. On peut bien comprendre que c'est pas si facile, mais nous avons cette chance quand même que nous avons les institutions pour ce faire.
Alors il y a les institutions, effectivement, il y a la justice de la République. Comment ça va se passer maintenant? Quelle va être la réponse de l'Église, Véronique Margron, au niveau des responsabilités? On sait qu'un certain nombre de gens ont été entendus, il va y avoir réparation uniquement pour les personnes qui jusqu'à présent sont venues témoigner, ou est-ce qu'il va falloir entendre d'autres gens aussi?
Ah, c'est impératif de pouvoir entendre d'autres gens, bien sûr. C'est-à-dire que la première des choses qui nous incombe, vraiment la primordiale, c'est cela. C'est que toutes les personnes qui appellent depuis mardi, réalisant que...
Qui appellent qui? Les congrégations?
Alors qui, pour le moment, elles appellent qui? Certains appellent la SIAZ, qui malheureusement n'est plus évidemment en situation de pouvoir répondre. Hein. Elle a fait amplement son travail. D'autres appellent...
On rappelle que la SIAZ, c'est la commission indépendante concernant les abus sexuels, présidée par Jean-Marc Sauvé.
Je pense peut-être un numéro à la conférence des évêques ou à la conférence des religieux, donc ou appelle personne justement, mais voudrait pouvoir appeler parce que réalise que peut-être maintenant quelqu'un enfin va les croire. Donc la première chose fondamentale, c'est ça, c'est que nous ayons une structure pérenne, professionnelle.
Mettre en place ne serait-ce qu'un numéro de téléphone.
Un numéro de téléphone national pour que les personnes qui aujourd'hui pensent qu'enfin elles seront crues puissent parler.
Mais ça va durer des années tout ça?
Sans doute, mais enfin, c'est notre première responsabilité. Ça durera le temps qu'il sera nécessaire que ça dure pour que toutes les personnes qui le peuvent et qui le souhaitent puissent être entendues, être reconnues, être crues, et que des processus de réparation personnalisés puissent se faire.
Ça veut dire qu'il y aura des indemnisations?
Sans aucun doute.
Et que l'Église va devoir payer?
Bien sûr. Si vous, demain, vous commettez un délit, que vous renversez, que vous provoquez un accident d'enfant, c'est vous et personne d'autre qui allez payer, donc bien évidemment.
Donc l'Église paiera, l'Église trouvera les moyens, elle a les moyens de...
Je ne sais pas si elle a les moyens, mais si vous voulez, c'est pour moi, c'est pas la question du jour, elle le doit. Donc après, nous verrons au fur et à mesure ce qu'il en est, mais on peut pas commencer à se dire « ah oui, mais non, on n'est pas sûr, mais et alors ?» Enfin, ce qui compte là, c'est la vie des gens.
Et que les gens continuent de s'exprimer,
avant tout,
y compris des années après.
Absolument, c'est une des recommandations du rapport Sauvé, et je ne peux évidemment qu'y souscrire complètement, justement parce que la justice de notre pays, et même la justice canonique ici, dans beaucoup, beaucoup de cas, ne peut plus rien, parce que les agresseurs sont morts, parce que les faits sont très anciens, mais le traumatisme, lui, il est toujours au présent. Le malheur vécu par les personnes victimes est pour beaucoup, beaucoup d'entre elles toujours au présent le fracas des vies. Donc nous nous devons de trouver les moyens d'écouter, de croire et de réparer, quelle que soit l'ancienneté des faits commis, donc qu'ils remontent aux années 50, ou qu'ils soient beaucoup, beaucoup plus récents pour certains.
Alors, il y a une chose qui est sûre aussi, c'est qu'à l'issue de ce travail qui a été fait, Véronique Margron, on voit que l'Église va devoir se réformer, va devoir changer, va devoir évoluer. D'ailleurs, vous le disiez dans votre ouvrage, on entend aussi depuis mardi beaucoup de réflexions sur la question du célibat des prêtres. Vous, dans votre ouvrage, vous dites que ce n'est pas le sujet. Quand on sait par exemple que l'immense majorité des agressions sexuelles sont commises en famille, il ne faut pas commencer par là, ce n'est pas ça la question majeure.
Non, vous savez...
Mais il faut quand même poser la question de la sexualité.
À poser la question de la sexualité, ça c'est sûr. Poser la question du statut de la sexualité pour les religieux, les religieuses, les prêtres. C'est-à-dire la façon dont parfois, comment vous dire, à la fois on l'évacue et on la survalorise. C'est-à-dire comme si le célibat était une sorte d'état, pas sacré mais pas loin... Et donc, qui pour beaucoup, mais dans une situation comme s'il fallait correspondre à une sorte d'idéal, et comme cela, d'idéal de soi, hein, d'image idéale, et comme cela, bah, évidemment, ça marche pas, parce que, heureusement, nous avons un corps, eh bien, il y a un jour où tout ça se rompt, où les gens vivent dans ce que des psychologues appelleraient un faux self, et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, pour moi, c'est plus la sacralisation qui a pu être faite, ou qui peut toujours être faite, d'ailleurs, hein. Malheureusement, on ne peut pas parler qu'au passé, du célibat, des choix de vie dans la vie religieuse comme pour les prêtres, que le célibat lui-même. Je rappelle que le rapport Sauvé signale quand même un chiffre absolument terrifiant dans son enquête en population générale, qui est que 5,5 millions de Français aujourd'hui vivants ont été victimes d'agressions sexuelles pendant qu'ils étaient mineurs des années 50 à nos jours. Enfin, 5,5 millions, ce sont des chiffres vertigineux, enfin qu'on ne peut pas non plus intégrer, et on sait que un nombre important d'entre eux viennent évidemment d'abord, bien malheureusement, bien si douloureusement, des incestes.
Alors on va revenir sur tous ces sujets, Véronique Margron, en voyant quelles peuvent être les réponses de l'Église dans un instant. Mais on va d'abord passer, comme d'habitude, à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en ondes par Anne-Cécile Perrin. Cette semaine, les Pandora Papers, la mort de Bernard Tapie, la présidentielle et le pouvoir d'achat.
Retraités, mon pouvoir d'achat est grévé depuis des années, quoi. Depuis 2014, on prend des misères à chaque fois. Cette année encore, on va prendre 0,4% et ça comble pas la hausse de la vie.
Pension, salaire au cœur des manifestations mardi. Dans les cortèges, les dernières révélations du Consortium international des journalistes d'investigation ne sont pas passées inaperçues.
Là, on entend parler de l'histoire de Pandora Papers, on parle de l'évasion fiscale, on parle des milliards qui sont accumulés pendant cette crise. Et on va faire payer toujours les mêmes, les plus pauvres, les plus précaires. Pour nous, c'est inacceptable.
La question sociale de retour dans le débat public à 6 mois de la présidentielle, y compris à la droite de la droite.
Alors moi, je propose une chose, c'est que sur le gaz, l'électricité et l'essence, la TVA qui aujourd'hui est à 20% passe à 5,5%.
Marine Le Pen en baisse dans les sondages. Emmanuel Macron, lui, reste qualifié pour le second tour. Ses fidèles sont confiants, mais prudents.
La vérité, mes amis.
Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.
Et que son élection montre que tout est possible, y compris sa réélection, mais y compris l'échec.
Dans ces conditions, ne rien laisser au hasard et aller chercher les électeurs partout, absolument partout. Jusque dans les centres de la SPA.
Ah, il est super.
T'es un dragueur. Hein. Tout le monde est attaché à la condition animale.
Emmanuel Macron à la pêche aux voix. Pendant ce temps, à droite, Xavier Bertrand conteste toujours la date du congrès pour départager les candidats.
On veut gagner, oui ou non? Et si on veut gagner, le 4 décembre, je le dis clairement, c'est très tard.
Tard peut-être, mais plus question d'y revenir pour Valérie Pécresse.
Le débat sur les modalités de sélection du candidat de la droite est clos.
On ne change rien, dit Christian Jacob.
Respect du calendrier, donc avec un congrès qui aura lieu le 4 décembre.
Et si en plus on s'est déchiré avant, alors là je vous dis, c'est clair, c'est rideau, c'est terminé.
Au PS, ce n'est guère mieux. La candidate déclarée, Anne Hidalgo, est loin de faire l'unanimité.
On est parti sur une campagne avec un doublement du salaire des profs.
Le maire du Mans, Stéphane Le Foll.
Il faut rester sérieux. Et pour être sérieux, il faut être cohérent. Et pour être cohérent, il faut avoir un projet.
Bref, ce n'est pas gagné. Homme d'affaires dans tous les sens du terme, ancien ministre et ancien patron de l'OM, Bernard Tapie s'en est allé.
À Marseille, le stade Vélodrome est déjà rebaptisé.
Ils ont donné le stade Maradona à Naples. Pourquoi ils ne donneraient pas le stade Bernard Tapie à Marseille?
C'est comme si c'était fait.
Et c'est fini!
C'était le boss, c'était le patron. Merci pour cette Coupe d'Europe. À jamais les premiers, comme on dit.
À jamais les premiers, mais à quel prix? L'ancien procureur Éric de Montgolfier, qui s'était vu confier l'affaire du match truqué VAOM, n'a rien oublié.
Un homme est un tout avec ses qualités et ses défauts. Les qualités de Bernard Tapie sont réelles et personne ne saurait les nier. Ses défauts étaient sans doute à la mesure de ses qualités.
Lui n'avait pas encore réagi à sa dernière condamnation à de la prison ferme dans l'affaire Big Malion.
Je suis confiant que la vie est un long tapis d'ennuis.
Nicolas Sarkozy lors d'une séance de dédicace.
Et que le bonheur n'est jamais dans l'épreuve évitée, il est toujours dans l'épreuve surmontée.
Et le bonheur, c'est parfois simple comme un masque qui disparaît.
Avec le masque, on ne voyait pas c'est qui parlait parce qu'on ne voyait pas la bouche.
Ben maintenant, on peut se toucher, on peut être joyeux.
Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France en compagnie de sœur Véronique Margron, présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, ancienne doyenne de la faculté de théologie d'Angers, ancienne chroniqueuse aussi pour le journal La Croix et l'hebdomadaire La Vie. Autant dire que vous avez l'habitude, Véronique Margron, de suivre l'actualité. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce qu'on vient d'entendre?
Ce qui me frappe dans ce qui se disait à l'instant sur la politique, c'est que je pense que nos sociétés qui sont si techniques, qu'on pourrait considérer comme évoluées de ce point de vue-là, sont en même temps si irrationnelles. De voir ces montées, disons, populistes pour faire vite, à partir de rien, c'est-à-dire à partir d'aucun engagement réel dans la cité pour le bien commun, je trouve cela saisissant. Et comme on voit bien que ça touche quand même d'autres domaines, si on pense à la Covid-19, si on pense à la vaccination, enfin, je trouve que ça mérite vraiment qu'on se penche. Est-ce que c'est les fractures sociales qui provoquent cette poussée de l'irrationnel?
Est-ce et que... des crispations de la société.
Oui, ou est-ce que c'est aussi parce que justement nos sociétés sont si polissés par la technique, par les preuves, par tout cela, que du coup il y a une sorte de résurgence à la hauteur de cela, donc à la hauteur du scientifique en quelque sorte, comme en face du scientifique, de l'irrationnel. Je trouve ça à la fois inquiétant et très impressionnant.
À un moment où les gens croient de moins en moins en Dieu, hein. Je vous livre ce sondage IFOP qui est paru il y a peu de temps, 51% des Français ne croient pas du tout. En tout cas, la proportion est de plus en plus importante.
Alors, vous me permettrez de penser que croire en Dieu n'est pas irrationnel, donc que nous pouvons échapper à cela. Oui, en fin de compte, moi je vous dirais volontiers, mais il y en a quand même encore 49% qui y croient, quoi. Et ça, je trouve ça magnifique. Et tout ce que j'espère, c'est que tout le monde, croyant ou pas en Dieu ou même en un Dieu, ait une aspiration transcendante, c'est-à-dire quelque chose qui donne sens à sa vie. Au-delà de l'immédiat, quoi, je pense que c'est ça qui est en jeu pour nous tous.
Il y aura cette présidentielle, effectivement, dans 6 mois. En 2017, vous aviez clairement pris position contre Marine Le Pen, Véronique
Margron. Oui, bien sûr. Parce que alors là, nous sommes dans, je n'ose même pas vous dire des valeurs, mais dans des propositions, qui sont pour moi absolument contraires à l'Évangile, absolument. Donc, je ne vois pas comment il serait possible de changer d'avis ici, bien au contraire.
Dans l'actualité de la semaine, il y a eu l'adoption par les députés d'une proposition de loi destinée à interdire ce qu'on appelle les thérapies de conversion, pratiques, on va dire, d'un autre âge, qui prétendent modifier l'orientation sexuelle des personnes LGBT à coup de prières, de séances d'exorcisme. On en parle dans un instant, mais on écoute d'abord ce reportage d'Alice Cachaner.
Benoît Berthe a 15 ans lorsqu'il est pris en charge par une communauté catholique qui prétend alors le guérir de son attirance pour les garçons.
On avait ce qu'on appelle un père spirituel à qui on avait obligation en fait de raconter tout.
Un guide spirituel qui en profite pour faire peur et faire passer des messages homophobes.
Du type les homosexuels ils se font recoudre les fesses, des trucs qui sont là pour effrayer en fait, le dire tu veux pas finir comme ça, tu veux pas finir comme un dépravé.
Des séances dont le jeune homme ne sortira pas indemne, il mettra des années à s'en remettre.
J'avais l'impression d'être cassé en fait, de faire tout mal, je faisais des cauchemars de brûler en enfer, j'avais envie d'en finir en fait.
Le cas de Benoît Berthe n'est pas isolé. Avec son collectif Rien à guérir, il a récolté plus de 200 témoignages similaires. Un phénomène répandu dans de nombreux départements et qui touche toutes les religions, mais aussi des médecins, soulignent les députés à l'origine du projet de loi. Du côté des groupes visés par le texte, on fait valoir la liberté de culte et les écritures saintes. Xavier Guillaume représente l'association Courage, un apostolat catholique qui propose un accompagnement aux chrétiens homosexuels.
Je ne vois pas où est la thérapie lorsqu'une personne adulte vient nous voir en disant ben « voilà, je crois à ce que dit l'Église et c'est la liberté de chacun, aidez-moi ». Selon l'esprit des auteurs de cette loi, c'est assimilé à une thérapie de conversion.
Des thérapies de conversion qui pourraient valoir à leurs initiateurs des peines de 2 à 3 ans de prison.
Voilà, pour l'instant, le texte a été adopté par les députés. Il faut encore que le texte parte au Sénat. Une réaction, Véronique Margron ?
Ma réaction, c'est en écoutant le témoignage, là, c'est qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui n'est pas loin de notre douloureux sujet de ce soir, qui est que, en écoutant ce monsieur, on voit bien que ce qui est à l'origine, c'est un abus spirituel, un abus de confiance, un abus de pouvoir. Enfin, ce monsieur et tant d'autres sont mis sous une forme d'emprise qui leur fait peur, où on va leur dire pour un peu qu'ils vont aller en enfer. Et ça, c'est une honte. Une honte totale. La question n'est pas de savoir si l'on est hétérosexuel ou homosexuel. Il y a bien longtemps que l'on sait qu'il n'y a pas de responsabilité personnelle dans l'orientation de la sexualité de quelqu'un. La question est...
Mais ça, c'est vous qui le dites. Hein. C'est pas une évidence pour tout le monde. Il se trouve que vous avez travaillé sur les questions de genre, Véronique Margron.
C'est quand même une évidence aujourd'hui scientifique, quand même, que
tous vos corps religionnaires, si je puis dire...
Nous ne sommes pas à l'origine de l'orientation de notre sexualité. Par contre, à nous de faire en sorte que nous la vivions avec justesse, avec respect des autres, et que pour tout un chacun, la vie puisse être bonne, la vie puisse être heureuse dans le respect absolu d'autrui et autant que nous le puissions dans le respect de nous-mêmes. Donc, voilà, je pense que là, il nous faut être assez ferme et assez clair. Toutes ces, je n'ose même pas appeler ça des méthodes, auront abîmé, détruite beaucoup de vies aussi.
Sur les positions de l'Église sur un certain nombre de sujets, j'aimerais bien avoir votre réaction. Il y a quelques jours, Olivier Véran a annoncé qu'il signait les décrets pour la PMA pour toutes. On sait que l'Église a été hostile, elle est toujours en partie hostile. Elle devrait évoluer sur ces sujets, d'après vous ?
Alors, pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu de mal à penser à ces sujets.
Je sais que les questions d'éthique vous passionnent, donc c'est pour ça que je me permets de vous poser la question.
C'est vrai que là, j'en suis tout de suite un peu loin, donc va falloir un peu de recul. Mais ce que je crois, à vrai dire, la seule position que je puisse prendre aujourd'hui, c'est peut-être de me dire que, de toute façon, il faut que mon église, et moi en cette église, enfin, on soit plus modeste sur tous ces sujets. Enfin, vu ce qui nous arrive aujourd'hui, je ne suis pas sûre que nous soyons en situation de faire la leçon à quiconque. Là maintenant.
Surtout que donc, sur ces sujets-là, les gens ont tendance justement à s'éloigner. Ça a été une des raisons de l'éloignement des fidèles.
Oui, parce que ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça donne le sentiment que l'Église est cruelle, qu'elle est sans cœur. Alors à la fois, il est normal, je pense même qu'il est nécessaire, que l'Église catholique, comme bien d'autres, et dans la société les autres cultes, d'autres courants philosophiques, puissent proposer des voies de sagesse humaine. Encore une fois, comment mener une vie bonne ? C'est une question philosophique, c'est une question existentielle. Donc pour moi, c'est très important. Voilà, je fais de l'éthique pour cette raison-là. Mais la vie bonne, elle est, comment vous dire ça ? Elle est toujours les pieds dans la terre. Enfin, elle n'est pas au ciel, quoi. Elle est avec le plus concret de notre corps, de notre incarnation, de notre situation. À chacun, donc, que l'Église... mon église à moi, l'église catholique dans laquelle je suis, puisse continuer à proposer des voies comme ça de sagesse, des voies humaines de sagesse. Oui, mais là, en ce moment, je pense qu'elle doit d'abord réfléchir à ce qui lui arrive, qu'elle doit prendre les décisions qui s'imposent, qu'elle doit vraiment s'abaisser devant tant et tant de malheurs provoqués en son sein. Et puis après, le temps viendra pour reprendre ces sujets importants de société et parler, et je l'espère, parler à hauteur d'hommes et de femmes, et surtout pas en surplomb.
Et donc réfléchir aux raisons qui ont conduit au désastre dont on parle ce soir. Vous avez évoqué le côté domination, le côté sacré. Je voudrais qu'on écoute la sociologue Nathalie Bajos, chercheuse à l'INSERM, qui faisait partie de la commission Sauvé. Pour elle, effectivement, la part du sacré et la domination masculine sont au cœur de ce scandale.
Les grands facteurs qui expliquent le fait qu'il y ait plus, deux fois plus d'abus dans l'Église catholique que dans les écoles publiques, par exemple, c'est la question de l'autorité sacrale, la dimension symbolique, l'absence de contre-pouvoir. Et il y a une autre dimension qu'on évoque aussi dans le rapport de l'INSERM, qui est celle de le fait que l'Église soit une institution qui revendique dans sa structure et dans sa culture la domination masculine. Et on sait, par tous les travaux qui existent dans ce domaine sur la sexualité, que tout ce qui concourt à légitimer la domination masculine favorise les violences sexuelles. Et si je fais ce détour, c'est pour dire que ces facteurs explicatifs de plus d'abus sexuels dans l'Église sont toujours présents aujourd'hui. Donc, la surexposition qu'on observe au fil du temps, sociologiquement, elle est encore d'actualité.
Voilà ce que dit Nathalie Bajos, toujours d'actualité, Véronique Margron.
Bien, bien douloureusement, oui, toujours d'actualité, bien sûr, qui pourrait prétendre le contraire. Et ce que dit Nathalie Bajos montre une réalité. Non pas que les hommes de gouvernement dans l'Église soient...
Mais comment c'est vécu par vous, qui êtes une femme religieuse, cette domination masculine qui est quand même très, très claire, très nette dans l'Église?
Alors, moi, à titre personnel, il se trouve que comme je ne peux pas dire que je n'exerce pas des responsabilités, oui, je ne peux pas du tout dire que je sois évidemment victime de cela, pas du tout, mais je sais bien comment mon Église fonctionne. Je pense que ce qui se dit là, c'est plutôt l'absence d'altérité, c'est-à-dire que quand vous êtes dans des modes de gouvernance qui sont essentiellement, bah, ou quasi exclusivement, en tout cas très essentiellement aujourd'hui encore, masculins, et en plus d'un masculin particulier, puisque ce sont quasi uniquement des prêtres qui sont dans ces responsabilités, vous êtes dans un monde trop homogène, et les mondes trop homogènes sont des mondes dangereux pour les plus vulnérables. Parce que quand vous êtes dans l'entre-soi, il y a un moment où s'il se passe un drame au milieu de vous, vous ne le voyez même plus, parce qu'en fin de compte, votre regard est accoutumé. Donc ce que je pense, c'est que c'est de l'altérité dont il est question. Donc à la fois qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des laïcs, bref, qu'il y ait de la diversité, qui correspond à la diversité des fidèles, à la diversité de la communauté croyante, réelle, bien évidemment, qui n'est évidemment pas, elle, composée que d'hommes célibataires, mais de familles, de jeunes, de vieux, de rouges, de noirs, de blancs, de jaunes. Voilà. Et c'est de cela dont il est question.
Alors, je reprends la liste des 12 travaux de l'Église que vous listez dans votre livre, effectivement, promouvoir la place des femmes, déconstruire le système clérical, revoir l'exercice du pouvoir, former les prêtres sur les questions affectives également, Véronique Margron, et désacraliser la figure du prêtre. Ça veut dire quoi, ça?
Oui, c'est ce que disait Nathalie Bajos à l'instant, c'est-à-dire que si vous voulez, à partir du moment où le prêtre ou la façon de le voir, c'est pas forcément lui, d'ailleurs c'est peut-être la communauté catholique, hein, qui le met sur une sorte de piédestal et de piédestal qui est lié à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes avec un supérieur hiérarchique, déjà vous n'êtes plus en relation vraiment réciproque. Mais quand vous êtes avec un prêtre,
là il y a une emprise.
Alors il y a terrible. Pas heureusement qu'il y a pas forcément toujours d'emprise. Heureusement. Donc dans l'immense majorité des cas, non. Mais c'est plutôt que, comment dire, cet homme, comme on le dit si souvent, mais on le dit aussi des religieuses, hein, est un homme ou une femme de Dieu. Donc vous le référez d'emblée à Dieu. Donc il a une autorité symbolique qui est très particulière. D'où le fait qu'il est si difficile de s'imaginer que cet homme-là puisse faire du mal. Et tant de familles d'enfants victimes, ou tant et tant de communautés religieuses où il y a eu des abus commis par des prêtres ou des religieux, le disent. Ah non, mais c'était le père. Et alors, quand elles vous disent c'était le père, vous avez un doute. Vous savez pas si elle vous parle du père qui est aux cieux, auquel cas il n'y a pas de problème. Mais non, le père sur la terre, là, le directeur spirituel, le confesseur, en fin de compte, était presque vécu comme le père qui est aux cieux. Et donc, bah, là, il n'y a plus de soupçons possibles, il n'y a plus de vigilance, il n'y a plus rien. Il est tout puissant, il est au-dessus des lois, y compris des lois de l'Église.
Donc effectivement, il y a pas mal de choses à revoir. Dans un instant, Véronique Margron, on va parler de vous, de votre histoire. Eh ben oui, le temps d'écouter une autre Véronique.
Les jours de ma vie s'en vont sans que j'ai pu retenir le son. Troublant, attendant d'être vu. Quand
dedans, Véronique Sanson, un disque spécialement choisi par Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Toujours en compagnie de Véronique Margron, sœur dominicaine, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Véronique Margron, on va parler un petit peu de votre histoire, de votre parcours. Vous êtes née en 57 à Dakar. Vous avez passé vos premières années en Afrique et vous êtes arrivée en France très jeune avec votre mère après la séparation de vos parents. Votre frère vous avait précédé en France. Vous avez grandi à Orléans, c'est bien ça ?
Absolument.
Et assez loin de la pratique religieuse finalement.
Ah oui, c'est-à-dire que...
Dans un milieu laïque.
Oui, laïque, enfin gentiment laïque, c'est-à-dire pas du tout anticlérical.
Mais catéchisme quand même,
oui,
ou pas ?
Oui, enfin j'ai aucun souvenir, mais je pense que... À mon avis, à l'école primaire, sans doute, oui, sûrement, puisque quand je suis rentrée dans la vie religieuse, je n'étais pas sûre d'avoir été confirmée. Je pensais même que non, et en fin de compte, si je l'avais été. Ah. Donc, en fin de compte, j'avais fait tout ce qu'il fallait, en quelque sorte.
Mais ça, vous n'avez pas laissé énormément de souvenirs. Ce sont des rencontres, si j'ai bien compris, qui vous ont amené à rejoindre une communauté religieuse. Oui. Le hasard des rencontres quand vous étiez étudiante. On va y revenir, mais peut-être un mot de vos études d'abord. Vous avez fait des études de psychologie. À Tours, pourquoi la psychologie, c'était déjà l'envie d'écouter, de comprendre
les
autres.
Oui, je pense, à vrai dire, je sais pas très bien comment je me le formulais à ce moment-là, hein. Mais je pense, oui, je pense que vraiment une des parts de ma vie, c'est vraiment ça, c'est d'écouter, c'est d'être là. Après, il y avait des raisons plus pragmatiques, qui est que je voulais m'éloigner un peu, donc l'université de Tours, c'était très bien, c'était à la fois pas trop loin, mais en même temps, c'était,
mais
pas,
c'était
Orléans,
pas dans votre donc, ville, voilà, donc c'était plus simple. C'est ça. Vous avez été enseignante, remplaçante après ces études. Et puis, vous avez passé le concours de la protection judiciaire de la jeunesse. C'était votre premier métier, si je puis dire. Éducatrice auprès d'enfants et de jeunes cabossés de la vie, comme vous dites.
Oui, de mineurs en danger, comme on dit. Oui, qui étaient à la fois des jeunes sortant de détention ou des jeunes ayant commis des petits délits ou des jeunes n'ayant commis aucun délit, mais que la protection judiciaire, qui s'appelait à l'époque d'un terme bien barbare, l'éducation surveillée, estimait à raison en danger. Donc de toute façon, des vies déjà bouleversées, pour beaucoup fracassées, et vu que ce sont aussi nos sujets, beaucoup, beaucoup d'histoires d'inceste dans toutes ces vies. Donc,
D'où votre sensibilité, évidemment, à ce sujet.
Oui, et le fait que j'ai jamais pensé que la famille était un lieu idéal, quoi. Vraiment, hein, quand j'avais quand même 22 ans, pas plus, quand j'ai commencé, donc... Oui.
Et racontez-nous maintenant ce qui vous a poussé à entrer dans les ordres. Vous n'êtes pas réveillé un beau matin en disant j'ai rencontré Dieu, ça y est, je vais le retrouver. C'est pas ça.
Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que j'avais une aspiration spirituelle. J'avais de fortes questions sur le sens de l'existence, sans très bien savoir comment le nommer. Donc après, c'est vraiment des rencontres avec des amis étudiants et étudiantes. Des rencontres aussi, je faisais beaucoup de camps de jeunes à l'étranger, enfin en Espagne en particulier, en Catalogne, que j'aimais beaucoup, où j'ai rencontré vraiment des croyants et des croyantes extrêmement profonds, je sais pas comment vous dire, humains, se prêtant au débat. Et donc c'est assez étrange, vous savez, mais c'est comme si j'avais reconnu ma maison, quoi. Et après, en effet, c'est les rencontres qui ont fait que j'ai rencontré des sœurs de ma congrégation et que je me suis dit, mais en fin de compte, ces femmes, à la fois vivent quelque chose de que je ne comprends pas bien et en même temps, elles me paraissent parfaitement normales au sens humain du terme. Et donc, je me suis dit, ben voilà, allons-y. Et puis voilà.
Et puis vous avez approfondi aussi, puisque vous avez fait des études de théologie.
C'est mieux quand même d'approfondir. C'est mieux de mettre sa raison aussi. Dans l'affaire et puis l'esprit critique et voilà et d'apprendre et d'entrer dans une tradition en fait compte que je connaissais pas du tout évidemment hein, dans les textes bibliques dont je ne connaissais rien enfin voilà de se mettre à cette école là c'est absolument fondamental.
Vous avez étudié à la Cato à Paris et puis vous avez enseigné aussi, vous avez été à la tête de la faculté théologique d'Angers. Vous avez été doyenne de cette fac. Vous aviez fait une thèse sur... Alors, c'est de la théologie morale et le sentiment de solitude, notamment.
Oui, c'est-à-dire que j'ai été passionnée de théologie morale tout de suite. Alors, pour deux raisons, je pense, de par mon parcours personnel et le fait que je travaillais pendant mes études à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, les questions, par exemple, de liturgie, tout ça était quand même très loin de moi. Ça faisait un trop grand écart, je pense. Ou les questions, je sais pas, sur le sens de l'Église. La théologie morale, en fin de compte, c'est ce que je vivais tous les jours avec les jeunes. Enfin, en tout cas, les questions d'éthique, de sens de l'existence. Et puis, il y a eu des rencontres, et en particulier la rencontre avec un maître qui était Xavier Thévenot, professeur de théologie morale à la Cato de Paris à ce moment-là, qui a été déterminante, qui était un homme d'une humanité extraordinaire.
Un petit point quand même du moment où vous êtes entré dans les ordres, comme on dit. Les collègues avec qui vous travailliez à l'époque à la protection de la judiciaire de la jeunesse, ils ont dû être étonnés. Certains oui, se sont même un peu inquiétés. Ils se sont dit, on va la voir avec un voile sur la tête, c'est ça?
Oui, non, ça je crois pas. Je pense plutôt qu'ils pensaient que j'étais à moitié dans une secte. Et je me rappelle d'un collègue qui m'était très cher, qui me dit, mais Véro, surtout, si ça va pas, tu me dis, parce que moi je t'emmène chez un bon psy, j'ai tout ce qu'il faut. Je lui dis, mais écoute, viens, puis tu vas voir, viens manger, reste là et tu me diras, au cas où je réaliserai pas où je suis. Bon, en fin de compte, je trouve que tous ces gens ont trouvé que ça avait l'air plutôt sympa et surtout sain, S-A-I-N, quoi.
Et vous y êtes toujours, et oui. Vous êtes donc chez les Dominicaines, en communauté, ici à Paris, puis à la tête de votre congrégation, à la tête de la Coref aussi, on le disait tout à l'heure. Combien de religieux et de religieuses en France?
Environ 28 000.
Avec essentiellement des femmes, enfin deux tiers.
Alors deux tiers de femmes.
Donc normal que ce soit une femme oui. à la tête de la Coref. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et dans vos conclusions, il faut que les femmes aient plus de place dans cette Église.
Qu'elles prennent toute leur part, bien évidemment.
Ce serait important pour rétablir un petit peu l'équilibre et la situation et éviter ce genre d'abus. Un très grand merci Véronique Margron d'être venue ce soir. Et pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion sur tout ce qu'on est en train de vivre, je renvoie à ce livre, Un moment de vérité, que vous avez publié il y a plus de deux ans maintenant, et en fait qui est complètement d'actualité. C'est chez Albin Michel. Un très grand merci d'être venue nous voir aujourd'hui, Véronique Margron. Merci à vous. Encore.